affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
De Canal Académie, merci de votre fidélité. Les choses les plus familières sont souvent les plus mystérieuses, les plus difficiles à définir. Ainsi, à propos de la question de savoir ce qu'était le temps, Augustin écrivait dans les Confessions « Si personne ne me pose la question, je le sais. Mais si on me la pose et que je veuille y répondre, je ne sais plus. » A même un bas nous saisit sans aucun doute s'agissant des mots les plus usuels de notre vie et de notre système politique, à commencer par celui de « République ». Nous l'utilisons à foison, mais nous sommes bien embarrassés lorsqu'il s'agit de le définir précisément, son contenu et ses contours. Est-il une forme ou plutôt une série de contenus? Se caractérise-t-il par des procédures ou plutôt par des valeurs? Et si oui, lesquelles? Pour éclaircir la question, la tentation est alors grande de se tourner vers les origines. Quoi de plus logique, puisque tous les grands penseurs du républicanisme, Bodin, Machiavel, Montesquieu, Condorcet et tant d'autres, ont procédé ainsi, en situant son origine dans l'Antiquité et plus précisément à Rome, réputée donc avoir été la première république, la république originelle. La démarche est bien sûr légitime, mais elle comporte un risque, celui de greffer sur la Rome antique notre propre sensibilité, nos propres représentations, nos propres préoccupations, si bien que l'on en viendrait à recouvrir la façon dont la république, ou plutôt la res publica, était envisagée et vécue par les Romains eux-mêmes. Or, c'est à cela que nous allons nous attacher aujourd'hui. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Madame Claudia Moati. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire romaine à l'Université Paris 8 et à l'Université of Southern California. Et vous avez publié l'année dernière un ouvrage justement intitulé « Res publica » et qui se présente comme une histoire romaine de la chose publique, ce qui nous éclaire sur le phénomène déjà, sur le caractère dynamique de la notion. C'est un ouvrage qui a été primé par l'Académie française, le prix Millepierre, si je ne me trompe pas, en 2019, un prix qui vous sera remis en décembre prochain. Le livre, disais-je, est plein de surprises et va nous sortir des brumes avec lesquelles nous envisageons donc cette notion de res publica. Et la surprise vient en l'occurrence dès la première page de l'ouvrage, du moins pour les non-spécialistes que nous sommes, puisque vous écrivez, c'est la première phrase, « Les Romains ne savaient pas qu'ils vivaient dans une république ». Pour nous qui avons appris au lycée que l'histoire romaine se décomposait entre d'abord la royauté, ensuite la période républicaine et puis l'Empire, c'est une sacrée surprise.
Oui, c'est une surprise si l'on prend le terme « république » de manière figée et de manière contemporaine. Ce que j'ai voulu essayer de faire dans ce livre, c'est précisément de prendre l'histoire à rebours. Au lieu de me tourner vers l'Antiquité pour savoir quelle était la forme de républicanisme que les Romains avaient connue, j'ai essayé de partir de la langue. Or, la notion de res publica, d'où vient notre mot république, ne signifie pas république, ne désigne pas un régime politique. Et c'est la surprise qui a été la mienne d'ailleurs quand j'ai essayé de creuser un peu cette notion, que j'ai toujours traduit comme tout le monde par état ou chose publique même. Mais quand on s'interroge sur la notion de chose publique, la res publica, sur cette notion, ce petit mot res qui parfois suffit à désigner res publica, qui parfois suffit à se référer à cette entité ou cet ensemble de relations entre les citoyens, d'affaires entre les citoyens, et bien quand on se tourne vers ce petit mot « res », on découvre un univers complètement inattendu et complètement intraduisible. Il est très impressionnant de voir que ni les Grecs, ni les modernes n'ont su traduire cette petite notion de « res », « res publica », et personne ne réussit à rendre compte de l'indétermination de la chose, Et deuxièmement, de tout ce qu'il y a derrière cette notion de chose, si on creuse, si on se réfère aux usages les plus anciens de la notion de chose. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça signifie de se référer à une chose pour désigner quelque chose qui concerne la communauté politique, et qu'est-ce que signifie res, qu'est-ce que signifie ce que nous traduisons par chose de manière certainement inexacte. Qu'est-ce que le latin dit que nous ne pouvons pas dire dans une autre langue? Et c'est la première question que je me suis posée pour éviter les anachronismes et pour sortir aussi des enquêtes innombrables qui ont été faites, très intéressantes toujours, mais insatisfaisantes sur la nature du régime politique romain à l'époque que nous désignons comme une république, c'est-à-dire entre 509 avant Jésus-Christ, date de l'expulsion des rois dans le récit des Romains, et 27 avant Jésus-Christ, date de ce qu'on appelle l'Empire, avec l'arrivée d'Auguste au pouvoir. Donc, qu'est-ce que signifie res publica? Qu'est-ce que les Romains entendaient par là? Et là, on a des surprises, effectivement, qui nous obligent à périodiser de manière différente.
Alors, vous attardez, comme vous l'avez dit au début du livre, sur le terme lui-même. Alors, vous nous expliquez que c'est un terme très particulier, parce que un mot même très particulier, puisque à la fois sa forme et son contenu ne font qu'un, finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que ça éclaire quand même la plasticité de la notion.
Alors, la forme est fluctuante, c'est-à-dire qu'on trouve, ce n'est pas un concept, res publica, donc pas du tout non plus un régime politique. Res publica peut se trouver soit sous forme res publica, et parfois les deux mots sont séparés par d'autres mots, ou peut se trouver sous la forme de publica res, ou res tout court. Plus tard, et on y viendra peut-être, on trouvera res summa, hein, la grande affaire. Alors ça, c'est le premier point, c'est un terme fluctuant qui désigne quelque chose de la communauté politique, parce qu'il faut tout de suite ajouter qu'il y a d'autres mots pour désigner la communauté politique à Rome. Il y a aussi civitas, le territoire civique sur lequel les Romains vivent, le territoire civique, mais aussi le droit de citoyenneté. Le mot désigne les deux à la fois. Et puis il y a populus, hein, le peuple romain, qui désigne, par exemple, dans les traités internationaux, l'entité cité, la cité romaine. Donc il y a trois termes. Res publica, civitas, populus. Et si les deux autres ont été l'objet de définitions assez précises, la notion de res publica n'est jamais définie. Cicéron, dans un texte d'ailleurs, dit, Cicéron, qui est le premier, au premier siècle avant notre ère, a donné une définition, un concept même de la notion de res publica, extrêmement peu clair. Mais Cicéron est le premier à dire que si on s'interroge sur des choses extrêmement vagues, comme par exemple la res publica, donc pour lui aussi, il y a quelque chose de mystérieux dans cette notion. Et c'est la première chose qu'il faut dire. C'est parce que, précisément, la notion de chose reste quelque chose d'indéterminé. On ne peut pas définir a priori ce que c'est qu'une chose. Si on regarde, par exemple, si je prends un autre mot, n'importe quel mot, je prends le mot table ou je prends le mot cité. Si dans le mot cité, il y a une référence à citoyen, civis. Dans la table, je vois très bien ce à quoi je me réfère. Mais dans une chose, à quoi me référais-je? On ne le sait pas du tout. Il faut donc qu'il y ait un regard ou une action précise de ceux qui sont concernés par cette chose pour que cette chose soit définie.
Donc c'est par définition un mot extrêmement vivant sur lequel on peut greffer tout un tas de choses, un imaginaire, des aspirations, éventuellement des ressentiments, enfin tout un...
Éventuellement des ressentiments.
Un mot enveloppe ou de mot valise.
Exactement, c'est un mot enveloppe, c'est une enveloppe, ce que j'appelle un concept vide ou un mot vide, kénotique, je dirais, c'est-à-dire quelque chose dont on sait à peu près ce qu'il désigne, mais dont le contenu nous échappe, dont le contenu exhaustif nous échappe.
Alors si c'est une enveloppe qui est vide, elle est faite pour être remplie.
Elle est faite pour être remplie, mais parfois elle est réduite à sa simple enveloppe.
Alors au fil du temps, comment a-t-elle été remplie?
Ce qu'il faut quand même ajouter, c'est qu'au plus haut qu'on puisse se référer, la notion de res a quand même une valeur particulière. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une chose, n'importe quelle chose. C'est d'abord dans le contexte judiciaire que s'emploie le mot res. La res, en fait, c'est une affaire qui concerne deux personnes ou plusieurs personnes ou tous les citoyens. C'est l'affaire. Donc vous voyez, même quand je dis en français l'affaire, je ne peux pas savoir exactement de quelle affaire il s'agit. Donc il y a quand même de l'indétermination. Mais ce qui est très important, c'est qu'on comprend tout de suite que la res ne peut être définie que si des citoyens jettent leur regard sur elle. Et ce regard peut être soit de partage, ce sont les choses qu'on a en commun, soit de conflit. Ce sont les choses à propos desquelles on débat. On a un litige même.
Après tout, d'ailleurs, il n'y a pas un antagonisme fondamental entre conflit et commun. Hein. Le conflit peut être commun des parties.
Oui, tout à fait. Mais justement, le conflit est aussi une part du commun. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi je dis un peu de manière un peu provocatrice que la res publica, c'est aussi le conflit. Alors ça a des conséquences très intéressantes, c'est-à-dire que d'abord ça met l'accent sur le fait que ce qui est très important dans la définition de la res publica, c'est avant tout les citoyens, c'est-à-dire c'est le résultat de l'interaction entre les citoyens. Les affaires n'existent pas a priori, elles existent parce qu'il y a interaction entre les citoyens. Donc ça c'est le premier point qui est peut-être le plus important. Et deuxièmement parce qu'il y a pluralité de citoyens et parce qu'il y a potentiellement conflit entre les citoyens.
Ça veut dire que c'est une notion horizontale.
C'est une notion absolument horizontale. Je dirais que c'est la dimension interrelationnelle de la res publica. C'est-à-dire qu'elle n'existe qu'en tant qu'il y a des citoyens qui en font quelque chose. Et donc, anthropologiquement, si vous voulez, c'est très intéressant parce que c'est une notion qui, d'abord, est dynamique et, deuxièmement, met l'accent sur l'action des citoyens. Ce qui est important, c'est de pouvoir agir. Au fond, qu'est-ce qu'un citoyen ? C'est celui qui a le pouvoir d'agir à l'intérieur de l'espace civique. Et c'est ça que dit la notion de res publica. Et ça explique en grande partie pourquoi, au fond, le système romain a été, comme on en fait souvent l'éloge, a été un système extrêmement inclusif. On peut intégrer, au fond, n'importe qui, puisque alors, il n'y a pas identité a priori des choses, mais ce qui compte, c'est l'action. Donc on peut donner le pouvoir d'agir à des gens qui sont extérieurs à la cité, soit en leur donnant la citoyenneté, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, soit par la fiction juridique, en considérant, par exemple, qu'ils agissent comme s'ils étaient citoyens romains, ce qui a été aussi un usage assez fréquent. Mais j'insiste sur le fait qu'au fond, ce qui m'a intéressé, ce que j'ai découvert, c'est la matrice judiciaire de la notion de res publica.
Je crois qu'il faut creuser l'affaire et voir à quel point même, en termes d'institution, il peut y avoir un glissement ou une confusion entre les lieux où se dit le droit et les lieux où se gèrent les affaires publiques. Parce que là, le lien devient
Extrêmement évident, et ça explique aussi pourquoi la figure du procès est si importante à Rome. Ça explique pourquoi le droit romain, ce qu'on entend par le droit romain, c'est quand même essentiellement du droit privé, est vraiment une invention. Le droit romain est une des caractéristiques de l'histoire romaine. Et puis ça explique pourquoi, pour penser l'espace public, ceux qui ont commencé à construire un discours théorique sur l'espace public, ont utilisé des catégories de droit privé.
C'est un des aspects extrêmement troublants, c'est-à-dire que dans l'idée qu'on se fait du droit, et notamment du droit romain, il y a cette distinction public-privé, et là on voit que la matrice...
La matrice du public, c'est le privé, ça c'est clair, c'est-à-dire l'interrelation entre les citoyens. Il n'y a pas d'entité publique finalement
transcendante et écrasante,
l'espace public c'est d'abord l'espace entre les citoyens. Hannah Arendt avait assez bien compris cela, de manière un peu trop, à mon avis, idéalisée, parce qu'elle ne donnait pas dans cet espace public assez de place au conflit. Mais je pense que c'est cette dimension de inter-essai, être cet espace qui est entre les citoyens, qui définit la res publica. Alors c'est très intéressant parce qu'on dit toujours que les sociétés antiques sont des sociétés hétéronomes, c'est-à-dire où les dieux ont une influence extrêmement importante, et notamment Jupiter. Bien sûr, il faut continuer à penser que les dieux ont une place importante dans la cité, et dans la définition de l'espace physique de la cité. Mais dans la notion de res publica, la res publica, c'est la chose du peuple, c'est ça que ça signifie, c'est-à-dire ce qu'en font les citoyens. Vous voyez bien que les dieux n'ont pas tellement de place. Ils sont une des affaires de la cité, mais ce ne sont pas eux qui ont un rapport avec la res publica. La res publica, c'est ce qu'en font les citoyens.
Peut-être que le fait qu'il y ait eu un panthéon avec des dieux multiples en conflit les uns avec les autres... Peut-être aussi un dieu unique et un rentre peut-être plus en conflit qu'une définition du politique qui est faite d'interactions, de conflits, de valeurs, d'intérêts ou autres, non ?
Le polythéisme a peut-être aidé à l'idée de pluralité, c'est ça que vous voulez signifier. Mais on peut penser cela, mais il est un fait que, si vous voulez, dans la définition du territoire de la cité, par exemple, le territoire est un espace qui est l'objet de rituels, comme n'importe quelle activité politique à Rome, hein, quand on veut réunir une assemblée ou partir à la guerre, on consulte les dieux. Donc les dieux ont une importance quand même dans la cité. John Scheid avait bien montré justement cette importance du rituel religieux dans la définition de l'espace civique. Donc ça, on ne peut pas le nier.
Oui, l'espace civique n'est pas intégralement profane.
Non, absolument. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la définition de la res publica, finalement, ce sur quoi on met l'accent, c'est vraiment sur les citoyens. Alors, c'est une idée qui est assez peu formulée, finalement, à propos de Rome. Hein. Je pense toujours aux travaux de Cornelius Castoriadis à propos de la démocratie athénienne, où il explique qu'au fond, la démocratie athénienne est la première expérience de l'autonomie des citoyens qui sont capables, indépendamment de toute référence aux divinités, qui sont capables d'auto-instituer leur cité. Mais au fond, dans la notion de res publica, on peut retrouver cette capacité d'auto-institution. Hein. C'est le peuple qui fait la res publica, ce sont les citoyens qui font la res publica. Mais j'ajouterais, dans le conflit potentiel, ce que ne prenait pas du tout en compte Castoriadis avec son idée d'autonomie. Et c'est pourquoi j'ai avancé l'idée de altéronomie. C'est-à-dire, je crois qu'entre l'hétéronomie et l'autonomie, il y a aussi cette idée d'altéronomie, c'est-à-dire la capacité pour une cité de à la fois de donner la place à l'autre et d'altérer sa constitution. Et c'est ce qu'on voit très bien dans le conflit entre les patriciens et les plébéiens à l'époque, au début de la République romaine, entre le 4e siècle et le 3e siècle avant notre ère. Enfin, 5e, 4e, 3e siècle avant notre ère.
Oui, car cette belle conception, peut-être faut-il d'ailleurs aborder une autre notion qui l'éclaire aussi dans les tentatives d'appréhension de... J'allais dire du concept, mais je ne sais plus du mot res publica.
Oui, du terme, de la locution.
De la locution res publica. Vous faites une distinction entre une conception qui serait uniquement, qui porterait sur les divisions et l'autre sur les parties. Est-ce que vous pouvez.
Oui, alors ce que.
Je trouve très éclairante.
Ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que, disons, à partir du moment où on met l'accent sur l'action des citoyens, et à partir du moment où on a cette vision horizontale donc, de la res publica comme étant l'ensemble des affaires qui concernent les citoyens et les citoyens en action. Hein. À partir de ce moment-là, la définition de la res publica ne peut pas être close. Et on ne peut avoir qu'une approche presque sociologique de la res publica, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit dans les sources, on ne peut que s'intéresser aux parties de la res publica. Donc il y a un lien entre, je vais vous expliquer pourquoi aussi cette notion, cette conception a changé, mais il y a un lien entre la dimension horizontale et potentiellement conflictuelle de la res publica et sa définition en partes, en parties. Les parties de la res publica, ça peut être le Sénat, le peuple, les assemblées du peuple, les magistrats, mais ça peut être aussi les prêtres qui font partie de la Respublica, l'armée, les alliés, le trésor public. Je peux faire une énumération, elle ne sera jamais complète.
Tous les acteurs de la société.
Les acteurs de la société. Bon. Et, or, il se trouve qu'à partir du IIe siècle avant notre ère, on a une nouvelle conception, une nouvelle description de la Respublica et qui reflète, je ne dis pas qu'elle impose, mais elle reflète un changement d'attitude à l'égard de la Respublica. Cette nouvelle conception, elle consiste à reprendre au fond les catégories grecques et des régimes politiques et à essayer de trouver quelle est la forme de la Respublica, cette forme étant limitée à un tout petit nombre de partis. Si vous voulez, dans la cette deuxième définition de la Respublica, c'est Polybe, l'historien grec Polybe, qui la donne et qui reflète un changement dans la conception de la Respublica. Alors, qu'est-ce que c'est cette définition de Polybe ? Polybe est un historien grec qui vient d'une petite cité qui s'appelle Mégalopolis et qui a été, dans les années 160 avant Jésus-Christ, déporté à Rome. Il a été déporté à Rome. Il fait partie de ces Grecs qui ont résisté au pouvoir romain et qui, après la défaite de leur cité, ont été déportés à Rome. Il a vécu 20 ans à Rome, entre 167 et à peu près 145. Il est resté à Rome, il a été fasciné, il a vécu dans l'entourage des grands hommes de l'époque, et notamment de Scipion Émilien, et il a été fasciné par la cité de Rome et par la capacité de Rome à unifier le bassin méditerranéen. Donc, il s'est posé la question de savoir d'où venait cette puissance incroyable de la cité romaine. Et sa réponse, c'est non pas Rome est protégée par les dieux, ce n'est pas nécessairement la fortune, hein, mais sa réponse, c'est dans les institutions romaines qu'il la trouve. Alors c'est un livre fameux qui est le livre 6 de son Histoire romaine, dans lequel il décrit les institutions romaines. Or, il décrit les institutions avec les catégories grecques. Il essaye de montrer qu'il y a une vraie constitution romaine qu'il appelle la constitution mixte, composée à la fois d'une partie démocratique, une partie aristocratique et une partie monarchique. Mais en faisant cela, en fait, il formalise la Respublica. Il formalise la Respublica et il cherche la forma, d'ailleurs, la forma de la Respublica, la forme, et il réduit le nombre de partis à 3. Il y a le Sénat, il y a les assemblées du peuple et il y a les consuls. Même il ne parle pratiquement pas des autres magistrats. Et il ne parle pas du tout d'une autre partie très importante dans le système romain, c'est les tribuns de la plèbe, par exemple, qui jouent un rôle décalé, un peu à l'écart. On peut revenir.
Oui, décentré. Oui.
Un peu décentré, oui. Et donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit. Il y a une sorte de phénomène de réduction de la forme de la Respublica et surtout, il donne de la Respublica une définition qui renverse le système. C'est-à-dire, alors que ce sont les rapports de force et les partis qui font la Respublica dans la tradition, dans la vision horizontale, chez lui, c'est la définition de la Respublica qui produit des effets. Hein, donc on a un renversement, la forme produit des effets sur les rapports de force. Les rapports de force sont en quelque sorte prédéfinis par la forme. Donc on a un renversement complet.
Oui, on a l'impression qu'on passe du biologique, la vie du biologique foisonnante et par nature évolutive, à quelque chose de figé, mécanique,
de
mécanique
clos,
institutionnel.
Mécanique institutionnelle, plus clos et rationnel.
Reproduction. Voilà.
Et rationnel. Alors ça correspond au moment où on commence à formaliser la Respublica, précisément, à partir du IIe siècle avant notre ère. C'est ce que j'appelle, moi, c'est comme cela que je vois la crise de la Respublica, de la République romaine au IIe siècle.
C'est l'un des apports, je pense, un des points clés de l'ouvrage. C'est une nouvelle interprétation de la crise de ce qu'on appelle la République romaine. Expliquez-nous cela. Voilà. Pourquoi cette formalisation aboutit-elle à une incapacité à gérer une crise ou à produire même une crise ?
Alors, ce n'est pas tout à fait que la formalisation aboutit à l'incapacité, c'est que la formalisation reflète cette incapacité. Alors, il faut rappeler que traditionnellement, on explique la crise de la Respublica en s'appuyant sur l'interprétation qui en est donnée d'ailleurs à la toute fin de la République, par des historiens comme Salluste au 1er siècle avant notre ère ou par Cicéron. On explique la fin de la République par la rupture du consensus à l'intérieur de l'élite romaine. Il y a une sorte de vision idéalisée d'une période pendant laquelle la noblesse, enfin l'élite romaine au pouvoir partageait un certain nombre de valeurs, cette culture politique, ce qui n'est pas totalement faux, et qu'à partir du IIe siècle, il y a une rupture dans ces valeurs et la division de la classe politique produit une crise de la République. Alors, mon interprétation, elle renverse un petit peu le point de vue. C'est à partir du moment où je vois dans la notion de Respublica une notion qui suggère des rapports qui peuvent être conflictuels, on peut penser, et même en regardant l'histoire de Rome depuis le 5e siècle de la République romaine, on peut voir qu'au fond, la République s'est construite dans le conflit. Ce qui apparaît au IIe siècle, dans le conflit, dans les réformes, hein, les réformes des plébéiens, les Romains le reconnaissaient, les réformes des plébéiens dues aux sécessions de la plèbe plutôt à partir du 5e siècle, ont transformé la République romaine. Or, ce qui se passe à partir du IIe siècle, et notamment du tribunal de la plèbe de Tiberius Gracchus en 133, c'est qu'il y a un refus de réforme. On ne peut plus réformer. À partir de ce moment-là, alors que les Gracques proposent des réformes sociales, réformes agraires, puis réformes frumentaires, réformes judiciaires, etc., une partie de l'élite résiste aux réformes, refuse ces réformes, et de manière extrêmement violente. Et donc, dans ces réformes, dans ce refus de réforme, la Respublica devient en quelque sorte la référence absolue. C'est au nom de la défense de la Respublica qu'on refuse les réformes. Et donc, vous voyez qu'il y a une concomitance entre, en quelque sorte, cette idéalisation formelle de la Respublica et cette idéalisation de la Respublica de la part d'une partie de l'élite pour refuser ces réformes.
Mais c'est-à-dire que la Respublica est non seulement idéalisée, mais une partie de la population, pour dire les dominants, se l'approprie. C'est-à-dire qu'elle en devient détentrice.
Elle devient le défenseur, une partie de l'élite s'érige en défenseur de la Respublica. Et c'est en ce sens qu'elle s'idéalise, parce qu'au nom de la Respublica, la violence politique va se déclencher de manière extrêmement, progressive et extrêmement problématique, mettant en cause les lois elles-mêmes. Par exemple, les lois qui interdisent qu'on condamne à mort un citoyen sans procès. Il y a donc, à partir de cette période-là, non seulement une idéalisation de la Respublica, mais un processus par lequel, au nom de cette Respublica, toujours pas définie d'ailleurs, hein, mais au nom de cette Respublica dont une partie de l'élite sénatoriale se veut garante, au nom de Respublica, eh bien, on défie toutes les traditions romaines et toutes les lois. Donc on arrive à une sorte d'opposition entre la Respublica et le peuple qui vote les lois. Entre d'un côté le Sénat et le peuple, la Respublica et les lois. Et c'est cette opposition qui définit toute la fin de la République romaine.
C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, à partir du moment où la Respublica devient une notion idéalisée et transcendante, ceux qui s'y opposent ne sont plus juste une partie au débat, mais des adversaires, des ennemis, des traîtres.
Des séditieux.
Des séditieux qu'on peut traiter comme tels.
Absolument. Je crois que c'est ça, c'est un des renversements les plus importants. La Respublica était composée de partis, c'est-à-dire aussi de citoyens, tous partie prenante de la vie de la cité, il y a d'un côté la Respublica et les séditieux. C'est-à-dire que là, il y a l'idéalisation de la Respublica se fait en même temps que se construit la notion de sédition. C'est incontournable. Il y a entre les deux une sorte de lien indéfectible.
C'est-à-dire qu'on arrive à un système qui auparavant était inclusif et digérait le conflit. Dans un système exactement antagoniste, où le conflit est résolu par l'exclusion de tout contestataire, en dehors du périmètre de
l'exclusion de ceux qu'on... Absolument. La res publica, c'est l'ensemble des bons citoyens. Alors, se pose une question très importante, très rapidement, dès le tribunat de Tiberius Gracchus et puis de Caius Gracchus, son frère, 10 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on fait de ces citoyens qu'on désigne comme des séditieux ? Est-ce que parce qu'ils sont séditieux, ils ne font plus partie de la res publica et donc ne sont plus l'objet de protection judiciaire, et donc on peut les tuer sans les traduire en justice, ou autre possibilité,
oui.
selon précisément les réformateurs, ce qu'on appelle les populares, eh bien autre possibilité, même si on est contestataire, on fait partie de la res publica, et donc on doit être protégé par la justice. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui sur le problème des terroristes. Hein. Est-ce qu'un terroriste, quelqu'un qui a combattu contre la cité et qui est citoyen romain, doit ou pas rester citoyen romain ? Ou est-ce que seuls les bons citoyens font partie de la cité ?
Avec peut-être une précision supplémentaire, c'est que parmi les exclus, tous ne pratiquaient pas le terrorisme, donc ça va quand même beaucoup plus loin.
Ça va beaucoup plus loin, mais...
Exprimer une idée contestataire pouvait suffire, si j'ai bien compris. C'est-à-dire discours de réforme...
C'est un discours de réforme, mais qui très vite devient aussi violent. C'est-à-dire que la violence... La délimitation politique de la res publica ou la formalisation de la res publica produit de la violence. C'est aussi ça. Alors on ne peut pas nier qu'à la fin de la République, la violence n'est pas ce qu'elle était à l'époque de Tiberius Gracchus et il y a réellement des complots contre la res publica. Et là, effectivement, il faut d'autres mesures. Je ne justifie pas du tout la violence. Je pense que...
Non, on voit une spirale qui se met
en
place,
c'est un
système qui favorise...
C'est un processus qui se met en place et qui produit lui-même de la violence politique.
Oui, bien précisé, à aucun moment vous ne prenez parti pour le Sénat ou pour les populares ou pour les plébéiens, à aucun moment.
Non,
Mais en revanche, il y a un jugement sur la dégénérescence du système.
Dégénérescence du système et surtout sur le processus par lequel justement cette formalisation excessive et cette progressive exclusion de ceux qui veulent réformer la cité, cette formalisation et cette exclusion produisent de la violence qui conduit à un dysfonctionnement radical des institutions.
Alors, ce qui en témoigne, et là je veux dire, il y a beaucoup d'exemples sidérants, c'est l'extension du vocabulaire de guerre, mais appliqué à l'intérieur de la cité.
Oui, alors on est dans une période où Rome a conquis une bonne partie du bassin méditerranéen, et Rome est à la tête, donc, c'est une petite république impériale, en quelque sorte. Hein. C'est à la tête d'un empire territorial très important. Et à partir de 133, en quelque sorte, bon, ça je crois que tous les historiens sont d'accord, il y a une sorte de tournant. Il y a tout de même un tournant très important. Et le vocabulaire politique, effectivement, introduit dans la cité le vocabulaire de la guerre. C'est-à-dire que les séditieux sont ceux qui détruisent la res publica. On va retrouver les mêmes mots que pour les ennemis qui détruisent les cités. Les formes de réaction à la sédition ou à ce qu'on désigne comme la sédition, parce qu'il faut penser que ce qui est très important, c'est la radicalité de la réaction dès l'origine. Alors qu'on n'est pas dans un phénomène de sédition à proprement parler à l'origine, hein, ou de conjuration contre l'État, ou de complot contre l'État, mais c'est la radicalité. C'est-à-dire qu'au fond, les Romains, une de mes interprétations, c'est que les Romains ayant dominé le monde méditerranéen dans des conditions d'une très grande violence, ne supportent plus quelque opposition que ce soit, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et donc, il y a une sorte de glissement du vocabulaire et des comportements de guerre de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui produit aussi cette formalisation de la res publica.
Est-ce que cette déstabilisation ne vient pas aussi de changement dans l'équilibre des pouvoirs ? C'est-à-dire que j'ai cru lire entre les lignes, ou alors sont des souvenirs d'autres lectures, que cette période est marquée par un grand enrichissement d'un
Oui, mais c'est une des raisons pour lesquelles...
Dû à l'Empire, justement.
Voilà. Oui, absolument.
Certaines catégories de la population au détriment ou en comparaison des autres.
Il y a de vrais problèmes sociaux qui se posent et c'est une des raisons pour lesquelles les Gracq proposent des réformes. Hein. Donc il y a une nécessité de réformer la cité, sinon de la réformer dans son fonctionnement institutionnel, ce qui n'est pas le cas tout à fait, mais au moins d'introduire des réformes sociales.
Et c'est ça, on parle pas seulement de ce sont pas seulement des débats un peu vaporeux sur la notion de bien commun, on parle aussi des biens.
On parle aussi des biens publics. Qu'est-ce qu'on fait des biens publics? Est-ce qu'on peut les distribuer aux citoyens? Est-ce que les citoyens ont droit sur ces biens publics, les terres publiques notamment conquises, et qui décide de l'attribution de ces biens publics? Alors, ce sont deux questions qui sont liées, hein, chez les Gracq, par exemple. Et c'est là que la faction cette élite sénatoriale qui refuse les réformes, va d'une certaine façon idéaliser la res publica en disant ces biens sont inaliénables. Il n'est pas question de les distribuer aux plus pauvres. Donc il y a un lien entre cette question des réformes sociales dans la cité et ce refus de réforme est un refus de réforme sociale, est un refus d'une élite qui s'accapare toutes les richesses. Le problème économique est absolument clair et il est souligné par les historiens antiques, si on regarde bien.
Alors toutes ces tensions dramatiques qui ont donc dérivé, comme nous l'avons dit, en guerre civile, il va falloir les résoudre. Mais elles vont se résoudre, si je me souviens bien, par la transformation de la République en empire et l'arrivée d'Auguste. Quelle synthèse Auguste et les siens accomplissent-ils pour rétablir la concorde?
Alors peut-être avant d'arriver à Auguste, il faut dire un petit mot sur... Je sais bien que le temps presse, mais il faut dire un petit mot sur le fait que cette formalisation de la res publica se poursuit dans les discours. Hein. Donc il y a sans doute eu formalisation autour du problème de la terre, autour du problème de la sédition. Ça a donné lieu à la création de certaines procédures, hein, les procédures d'urgence par exemple, ou les lois de majesté, qui sont des lois visant à réduire la sédition à partir de l'époque de Sylla.
Ça ressemble vraiment à l'état d'urgence, hein,
oui,
ou à l'article 19 de la Constitution, c'est impressionnant.
Ce sont des procédures d'exception, hein, qui visent à protéger la res publica contre tout désordre, mais il y a encore une autre étape qui est la formalisation de la res publica dans le discours lui-même, dans le discours philosophique. Et c'est la formalisation par Cicéron qui a joué un rôle très important, parce qu'il conclut un processus de progressive formalisation de la res publica par un discours qui donne une définition de la res publica comme chose publique, comme chose du peuple, et par peuple il entend un peuple juridique et non pas le peuple de la cité, le peuple des rues, hein, bien sûr.
Donc, il parle pas de la plèbe.
Non, pas de la plèbe. Donc il y a une dimension corporative de ce peuple. Et c'est lui qui vraiment fige en quelque sorte le vocabulaire politique autour de la res publica. Je crois que c'est très important de voir...
Ça précède l'Empire.
Alors ça précède l'Empire et ça produit deux choses. Ça produit c'est un point final dans le processus de formalisation. Hein. Cicéron a joué un rôle considérable et il arrive à la fin du processus de formalisation. Et deuxièmement, en essayant de définir ce qu'est la chose publique, dans son fameux livre qui s'appelle un dialogue, le De Republica, en essayant de définir ce qu'est la chose publique, il donne aussi une description idéalisée de ce qu'a été la chose publique. C'est-à-dire les deux vont ensemble. Cette définition idéalisée selon laquelle la res publica a été dans l'histoire la liberté, le droit, la vertu, l'équilibre, le consensus, la moralité, etc. Et je crois qu'on ne peut pas penser la res publica et ensuite la réception de cette notion de res publica sans penser à ce travail d'idéalisation.
Oui, c'est réception jusqu'à aujourd'hui, vous voulez dire.
Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à, en passant par les hommes du Moyen-Âge ou les hommes de la Renaissance qui se sont référés à ce discours d'idéalisation et non pas à toute cette histoire immensément conflictuelle de la Respublica. Donc je pense qu'il faut bien tenir compte de cette importance de Cicéron, qui est une des sources principales pour nous sur cette histoire de la Respublica et qui clôt tout un processus de formalisation. Alors c'est ce discours que reçoit l'Empire, en fait. La Respublica, c'est plus du tout n'a plus du tout une définition horizontale interrelationnelle, mais elle a pris une définition substantielle. Il y a une substance, il y a une idée, au sens platonicien, de la Respublica, et les empereurs vont se référer à elle, non pas à la République. Vous voyez bien que la notion de République est problématique. Ils ne vont pas se référer à l'idée de République, elle n'existe pas, mais ils vont se référer à cette puissance publique qui est devenue la Respublica, comme instrument de légitimation de leur propre pouvoir. Il faut bien imaginer qu'Auguste arrive au pouvoir par les armes, quand même. Donc comment concilier ce pouvoir conquis par les armes avec la légitimité sénatoriale? Eh bien, la référence à la Respublica joue ce rôle de légitimité sénatoriale.
Ça nous éclaire un peu sur le fameux acronyme SPQR, non?
Alors, oui, là aussi, j'ai découvert que cet acronyme SPQR, c'est aussi, on pourrait dire peut-être le dernier moment, plutôt que Cicéron, mais le dernier moment de la formalisation, parce que SPQR n'existe pas du tout avant Auguste. Hein, c'est lui qui l'invente. Il a le coup de génie de reprendre, en quelque sorte, le vocabulaire de la toute fin de la République, ce qu'on trouve le Sénat et le peuple romain. C'est un syntagme qu'on ne trouve pratiquement pas dans les sources romaines.
Mais c'est la constitution mixte, en quelque sorte.
Alors, c'est la constitution mixte, oui, c'est ça, le Sénat, le peuple romain, mais à la place des consuls dans la constitution mixte de Polybe, on va trouver le princeps, Auguste. Et donc, c'est la constitution mixte réinterprétée par Auguste.
Donc, oui, c'est un slogan.
Alors, c'est un acte de communication génial qu'on trouve pour la première fois sur les monnaies de 19 avant notre ère, et qui va devenir la titulature de Rome, hein, SPQR, qu'on retrouve tout au long des siècles ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est le lien entre ce sigle SPQR et la réduction du Sénat et du peuple à des organes qui accordent des honneurs au princeps. Parce qu'au fond, ce qui est dans cette notion de SPQR, ce n'est pas le rôle politique du Sénat et du peuple romain qui est mis en évidence. Et dans l'idéologie augustéenne, la référence au SPQR, c'est la référence au Sénat et au peuple romain qui ont accordé des honneurs extraordinaires à Auguste, à commencer par son nom d'Auguste. D'Augustus.
Hein. Oui, au début, il s'appelle Octave, c'est ça ?
Il s'appelle Octave, c'est le fils adoptif de César, et il devient, en janvier de 27, avant Jésus-Christ, il devient Augustus par une décision sénatoriale. Donc, le Sénat et le peuple romain, comme identité politique, ce sont avant tout des organes qui produisent des honneurs à l'égard du princeps, et c'est cette dimension honorifique qui est célébrée dans les monnaies de 19 avant notre ère.
Peu de temps après, l'Empire va devenir chrétien. Quel était le regard des penseurs chrétiens sur toute cette histoire? On voit souvent les penseurs chrétiens comme étant les héritiers d'Athènes, de Rome, de Jérusalem. Augustin, par exemple.
Alors Augustin, il reprend la définition de Cicéron de la Respublica comme la chose du peuple. Il reprend le lien entre Respublica et justice, mais il va montrer évidemment que les Romains n'ont pas connu la justice, n'ont pas connu le vrai Dieu et donc n'ont pas connu de vrai Respublica. Alors, puisque vous faites allusion à... Alors, évidemment, c'est une formule, mais c'est une formule très forte parce que au fond, tout est... pour saint Augustin, c'est la définition de la justice qui est en cause. Mais la définition de la justice n'est possible que dans la référence à la cité de Dieu. Et ce qui est très intéressant chez saint Augustin, c'est que quand il y a un texte tout à fait fascinant qui est sur la doctrine chrétienne, De Doctrina Christiana, dans lequel saint Augustin s'interroge sur la Trinité et la divinité. Or, comment définit-il Dieu ? Deus est summa res. C'est la chose la plus la grande affaire, la chose supérieure. Alors, pour autant que ce soit une chose, dit-il. Mais on a là un écho quand même de ce vocabulaire. Vous voyez en quoi le vocabulaire du droit permet de penser non seulement philosophiquement, mais théologiquement. Et chez Saint-Augustin, ce vocabulaire du droit est une référence, on va le retrouver sur toutes les distinctions qu'il fait sur, par exemple, sur la notion de la jouissance de Dieu. C'est un vocabulaire juridique qu'il va employer. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point la matrice judiciaire chez les Romains et dans la langue latine, plus que chez les Romains au sens large du terme, en quoi la matrice judiciaire a été tout à fait puissante, à la fois pour penser le droit public et pour penser théologiquement.
Alors pour notre malheur, pour notre bonheur, c'est bien la conception cicéronienne qui va ensuite inspirer le républicanisme plus tardif, c'est-à-dire que c'est une conception très, finalement, assez mécanique. C'est ça, cette version idéalisée,
substantielle,
transcendante.
Oui, c'est une question substantielle, mais il y a chez Cicéron plusieurs choses qui ont influencé la pensée de la République. Alors, la pensée de la République, c'est une très longue histoire hein, qui commence finalement à la fin du XVe siècle avec Leonardo Bruni qui, pour la première fois, définit le régime qui n'est pas tyrannique comme res publica. C'est la première fois que...
Donc c'est l'interprétation des humanistes.
C'est l'interprétation des humanistes, mais c'est vraiment Bruni dans un contexte à Florence, dans un contexte de lutte contre la tyrannie du duc de Milan. Mais c'est la première fois que le mot res publica désigne un régime politique, celui qui est opposé à la tyrannie, bientôt opposé à la monarchie, chez Machiavel ensuite, qui distingue la République des principautés ou de la monarchie, et puis tout au long des siècles suivants, où la République devient un régime politique, le meilleur régime aujourd'hui, le meilleur régime politique, et ce qui n'était pas le cas effectivement dans l'Antiquité. Et la référence à Cicéron ne s'impose pas tout à fait nécessairement, mais on la voit apparaître de manière très, très importante aujourd'hui. Notamment dans la pensée républicaniste de ces dernières années, où je pense par exemple aux travaux d'un philosophe Philippe Petit, hein, dans son livre « Républicanisme », où le premier chapitre, c'est un chapitre sur Cicéron. Hein. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, ce qu'il cherche à définir, c'est un système politique qui ne serait pas marqué par le libéralisme, par la tradition libérale à la Locke. Et ce système politique, il le définit comme un système de non-domination. Et c'est dans Cicéron qu'il puise toute cette idéologie de la non-domination. Et de fait, à la fin de la République, dans le contexte de la montée des hommes providentiels, et notamment de l'opposition entre Pompée et César, où Cicéron ne voit que de la tyrannie à venir. Et dans ce contexte-là, la pensée cicéronienne peut être une sorte d'antidote à la notion de domination et de tyrannie. Donc on peut trouver chez les anciens tout ce qu'on veut, mais ça c'est plutôt dans le discours que dans la pratique de la République romaine.
En appui de votre interprétation de la res publica comme fruit d'interaction intégrant les luttes et les conflits. Je vais trouver une petite citation qui est de Guizot.
Oui.
Je pense que vous devez la connaître. S'interrogeant sur ce qui était ce qui pouvait constituer un des traits du génie européen, du génie politique européen, il écrivait ceci. La lutte, au lieu de devenir un principe d'immobilité, a été une cause de progrès. Les rapports des diverses classes entre elles, la nécessité où elles se sont trouvées de se combattre et de se céder tour à tour, la variété de leurs intérêts et de leurs passions, le besoin de se vaincre sans pouvoir en venir à bout, de là est sorti peut-être le plus énergique, le plus fécond principe de développement de la civilisation européenne.
C'est une belle illustration de la potentialité de la notion de res publica. C'est dans ce sens que la res publica devrait être reçue en tant qu'elle est construite par les citoyens.
C'était au 19e siècle, cette citation, mais voilà, elle reste valable, tout comme vos observations sur cette première Respublica. En tout cas, c'est très fécond. De fait, on ne peut plus, tout en lisant votre livre, et sans jamais céder à la tentation de prendre parti d'un côté ou de l'autre, il n'est plus possible d'analyser le moment que nous vivons aujourd'hui et l'actualité la plus récente, le moment populiste, la crise des gilets jaunes, tel ou tel tribun d'aujourd'hui proclamant « Je suis la République sans être, sans réinterpréter tous ces événements, ou les questionner en tout cas, parce qu'on en est au stade de la question et du questionnement et pas de la réponse, avec les outils et les éléments que vous nous donnez dans votre ouvrage. Je précise cela pour dire que cet ouvrage n'est pas seulement destiné à des spécialistes de l'histoire romaine, à des gens qui sont passionné par la période, mais que tout honnête homme, tout honnête citoyen devrait s'y plonger pour avoir un contrepoint et retrouver un peu de perspective et de profondeur historique pour envisager les événements d'aujourd'hui.
Alors je terminerai juste sur un point, c'est que je pense qu'effectivement se référer à l'Antiquité n'est pas une manière de chercher des modèles, n'est pas une manière de chercher des... non plus l'origine de notre système, mais c'est une manière de réfléchir à des processus. C'est ça, au fond, la contribution de l'histoire à la société d'aujourd'hui et à toute société, c'est l'analyse de processus. Et je pense qu'il y a des processus analogues qui nous permettent aujourd'hui donc de réfléchir à la crise que nous traversons, crise de la représentation, crise de la démocratie et peut-être crise de la politique de manière plus générale. Donc je pense que c'est cette dimension processuelle qui peut être source de réflexion.
Merci beaucoup. De fait, après avoir fait l'apologie d'une Respublica qui est souple et dynamique, c'était pas pour en finir en disant il y a un modèle à les calquer, il se trouve tout disponible.
Absolument.
Quelques siècles avant notre ère. Merci beaucoup, Claudia Moati. Respublica, histoire romaine de la chose publique, c'est chez Fayard dans la collection Ouverture. Merci de votre fidélité à tous et merci encore à vous, madame.
Merci beaucoup à vous.